France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Et pour bien commencer cette nouvelle année, j'ai la joie de recevoir Patrice Lecomte. Vous savez, l'homme des bronzés, mais aussi de quantité d'autres films comme Monsieur Ir, Ridicule ou plus récemment Une heure de tranquillité. Patrice Lecomte vient de publier un dictionnaire de sa vie où il revient entre autres sur l'importance qu'a pour lui la musique. On le retrouve dans un instant. En fin d'émission, je vous parlerai de l'opérette Chanson Gitane. Mais avant toute chose, en ce lendemain de fête, offrons-nous encore une petite viennoiserie.
Écrire avec talent une valse au rythme lent, il faut écouter chuchoter la brise. Le soir d'été, un oiseau dans le vallon, un roseau sous l'aquilon, un ciel étoilé, velouté, un rire de fraîches gens, deux yeux ardents, exprime dans un frisson l'air et la chanson. Désir de rire, plaisir d'aimer, joie de soupirer, de charmer, phrase qu'inspire du secret. La valse est comme votre reflet. Valsez, valsez, valsez lentement.
Et derrière ces petites vocalises sur aigu, les connaisseurs auront reconnu la voix de Mado Robin. Quant à ce beau baryton, c'était évidemment Michel Danse dans un air extrait de Valse de Vienne. Vous savez, une opérette qu'on a fabriquée à partir de musique de Johann Strauss, père et fils. Une opérette créée à Vienne en 1931 et à Paris en 1933. Le théâtre Odéon de Marseille a l'excellente idée de la reprendre très prochainement, les 13 et 14 janvier. Le théâtre Odéon qui sauve l'honneur de notre pays en matière d'opérette. Alors, rendez-vous-y nombreux à l'Odéon de Marseille.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Mais il est temps de retrouver mon invité qui est donc un des grands cinéastes français d'aujourd'hui. Il a été connu d'abord par ses comédies, mais il a montré qu'il avait bien d'autres cordes à son arc et tous ses goûts, ses passions, ses films. Il y revient dans un livre qui vient de paraître aux éditions Kéro. Ça s'appelle Le Dictionnaire de ma vie. La musique y tient une place non négligeable et même importante. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Patrice Lecomte. Bonjour Patrice Lecomte.
Bonjour.
Alors je me suis replongé dans votre filmographie. Je dois dire, j'ai été enchanté de découvrir, j'avais jamais fait attention, que votre premier film, Les WC étaient fermés de l'intérieur en 1976, avait pour musicien Paul Misraki, qu'on vient d'entendre et qui a composé ce générique.
Oui, mais alors tout à l'heure, avant que les micros ne soient ouverts, vous me parliez de Jean-Jacques Sempé, que
oui,
j'adore par-dessus tout,
le notre
dessinateur
ami Sempé.
Sublime, génial. Incontournable. Et vous me disiez à quel point il aimait
Misraki,
ouais. Reventura et quelques
tout
autres.
Ça, voilà.
C'est-à-dire simplement parce qu'il a du goût pour la fantaisie.
Ouais.
Dans son dessin, ça se sent, mais dans ses goûts musicaux. C'est que si un type aussi léger et inventif que Sempé n'aimait que les nocturnes de Chopin, ce serait suspect.
Ça n'irait pas.
Bah, vous, ça irait, mais...
Mais vous, qu'est-ce qui vous a conduit à Misraki, qui était déjà un monsieur d'un certain âge, dont
oui.
les succès dataient plutôt d'avant-guerre? Vous écriviez un film de jeune, si j'ose
oui.
dire, en 76.
Eh bien, figurez-vous que c'est Philippe Sard,
oui.
que je connaissais un petit peu parce qu'il avait écrit la musique d'un court-métrage qu'il avait tourné lui-même. J'avais bien aimé. Moi, au début, j'étais un peu blanc-bec, quoi.
Ouais.
Je connaissais pas tout, je connaissais même rien, enfin pas grand-chose. Et j'avais demandé à Philippe Sard d'écrire la musique des WC fermés de l'intérieur. Et à ce
ouais.
moment-là, il m'avait dit « Écoute, Patrice, ça n'ira pas, j'aimerais beaucoup, le film est très poilant, mais je pourrais pas, mais tu devrais demander à Paul Misraki. »
Vous êtes allé voir Paul Misraki ?
Et je suis allé voir Paul Misraki, dont je ne connaissais que « Tout va très bien, Madame la Marquise ».
Voilà, qui est cité dans le générique.
Cité dans le générique, la musique du générique. Et je suis tombé sur un vieux monsieur, mais un vieux monsieur délicieux, ouvert, avec l'œil qui pétillait, inventif, avec une réelle fantaisie, légèreté, tout ce que j'aime en fait. Et il m'a dit, mais très bien, je vais vous faire ça. Et il a fait une musique très musique à l'image, c'est-à-dire une
oui.
musique quand une porte s'ouvre, ça fait...
Ah oui,
quand la porte se referme, ça...
Mais il a pris ça au sérieux.
Très au sérieux. Il avait conscience, je lui ai pas demandé de faire la musique pour me moquer de lui du tout, en aucun cas, mais il a eu conscience de la parodie que ça a constitué.
Bon, ce film, par ailleurs, ça n'a pas été un immense succès. Et ça a été le début d'une histoire compliquée. On peut l'évoquer avec Jean Rochefort,
avec Jean
qui
Rochefort,
nous a quittés
oui,
récemment,
oui,
qui est devenu un de vos grands interprètes. Mais là, ça a été horrible. Hein.
C'est horrible, horrible. Sur ce tournage, c'était horrible. Ça a été tellement horrible, le tournage avec Jean. Et enfin, paix à son âme, et à cause de lui, je me suis dit,
j'arrête le cinéma.
Ouais. Mon rêve, c'était de faire des films. Ben bon, voilà, je fais ce film-là, puis après, j'arrête de faire autre chose. Je sais pourquoi, d'ailleurs.
Il avait même persuadé, en cours de route, le producteur, que fallait mieux qu'il reprenne lui-même la direction du plateau,
oui.
qui vous explique comment faire.
Oui, j'ai été mis à pied. J'ai été un petit peu, quand on voit des matchs de foot, et que d'un seul coup, l'entraîneur dit, toi, tu reviens sur le banc de touche. Et puis, c'est machin qui va continuer le match. Ce qui est normal dans le foot. C'est un petit peu moins normal dans le cinéma. Et effectivement, Jean Rochefort m'avait foutu sur le banc de touche. Et pendant une journée, il a dirigé le film. Autant vous dire que je n'ai gardé aucun des plans qu'il avait tournés, qui était navrant.
En tout cas, vous l'avez retrouvé des années plus tard. C'est
oui.
devenu un de vos grands interprètes. Juste la première fois que vous l'avez revu, vous l'avez appelé vous...
Ben, c'est-à-dire que quand j'ai écrit ce film qui s'appelle toujours Tandem, j'avais, malgré ce que j'avais vécu avec lui, comme j'avais beaucoup d'admiration pour... Je l'avais jamais revu entre-temps. Et je lui ai fait parvenir le scénario de Tandem. Et il m'a passé un coup de fil en me disant... Je l'imite très mal, hein, ne vous inquiétez pas. Il m'a dit... Allô Patrice, c'est Jean. Et on s'était jamais revu. Hein.
Vous étiez jamais revu depuis...
Non, jamais. Et on s'était jamais ni revu ni parlé. Et il me dit, allô Patrice, c'est Jean. Qu'est-ce que j'apprends? T'es devenu fou? Tu veux faire un film avec moi? Je lui ai dit, écoute Jean, oui, non, enfin, j'aimerais beaucoup. Lis-le, puis on verra bien. Mais j'aimerais beaucoup. Au revoir. Donc on raccroche. C'était en fin de journée. Et le lendemain matin, d'assez bonne heure d'ailleurs, il me rappelle et il me dit, allô Patrice, c'est Jean. Je t'interdis de faire ce film sans moi. Et notre histoire d'amour a commencé comme ça.
C'est très joli. Vous parlez d'ailleurs beaucoup des acteurs dans ce dictionnaire qui vient de paraître, le dictionnaire de ma vie. Vous expliquez notamment, c'est très intéressant, que quand on est jeune cinéaste, on s'occupe de toute la technique du cinéma, et puis on oublie parfois qu'au fond, le plus important, c'est de regarder les acteurs.
Bah, bien sûr. Quand on est un jeune cinéaste, on fait beaucoup de conneries. Hein. Et c'est vrai que c'est rassurant, entre guillemets, de s'intéresser à la caméra, aux objectifs, à un travelling coulé, au cadre et tout ça, parce que c'est de la mécanique, c'est de la technique. Donc
ouais.
la technique, c'est sans doute une manière comme une autre de fuir l'humain,
voilà.
de fuir le rapport humain. Mais
jusqu'au jour où un acteur vous dit « Mais regarde-moi !» Tu t'occupes pas du reste.
J'ai pas eu besoin qu'un acteur me dise regarde-moi pour regarder les acteurs, mais effectivement sur ce premier film, Jean a été m'a rien pardonné. Il a sans doute eu raison. Ça a été un stage AFDAS accéléré. Enfin, je savais ce que je voulais faire. Hein. J'avais fait plein de courts-métrages. J'étais pas un bleu. Mais j'étais maladroit avec les acteurs.
Alors on va revenir justement sur ce livre, Le Dictionnaire de ma vie, où vous parlez aussi de musique. La musique a même droit à des pages importantes et je voudrais qu'on en parle, mais autant remonter aussi dans votre propre histoire musicale, Patrice Lecomte, avec par exemple cette musique qui probablement se rattache à quelques souvenirs d'enfance.
Et maintenant, imaginez le cortège triomphal. Pierre en tête. Après lui, les chasseurs traînant le loup.
Évidemment, on a tous reconnu Pierre et le Loup avec la voix de Peter Ustinov et l'orchestre sous la direction d'Igor Markevitch. Ça fait partie des choses qu'on écoutait dans votre famille à Tours.
Oui, c'est pas des à Tours, en effet, provincial, et je revendique mes origines provinciales. C'est pas des trucs qu'on écoutait du matin au soir, mais c'est des trucs que moi j'écoutais. Pierre et le Loup, j'avais pas la version Peter Ustinov et je suis émerveillé d'entendre la voix de cet homme-là qui était anglo-saxon et qui parlait pratiquement sans accent.
Ah oui, il parle très bien le français.
Formidable,
oui,
formidable. Et moi j'avais la version avec François Perrier de Pierre et le Loup qui était très bien aussi et qui n'avait pas d'accent non plus. Quand j'écoutais, bon, c'était des vinyles, c'était des 33 tours, des 30 centimètres. Je vous parle d'un temps que les intermittents ne peuvent pas connaître. J'écoutais aussi beaucoup de disques. Par exemple, les bandes dessinées de Jacobs, La Marque Jaune,
ah oui,
Lucien Lapin. Alors, il y avait des versions...
Oui, ces choses jouées...
Des choses jouées avec bruitage, disque, musique, sûr, etc., ouais. Qui étaient formidables. Jusqu'au jour où un homme, un ami de mes parents, qui était un antiquaire, je crois que c'était pour une communion que je faisais, ou un anniversaire, ou je sais pas quoi, me dit « Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire, Patrice ?» qu'est-ce que t'aimes écouter comme disque? Parce qu'il voulait m'offrir un disque. Alors, je lui dis, bah, j'aime bien les histoires, genre La Marque Jaune. J'écoutais également Piccolo Saxo et compagnie.
Bien sûr.
Avec l'orchestre de André Pop. Enfin, bon, un tas de choses qui ont bercé nos enfances. Aujourd'hui, c'est d'autres choses, mais bon, moi, à l'époque, c'était ça.
Naruto, Dragon
oui,
Ball,
oui,
tout ça,
si vous voulez. Vous et je lui dis, j'aime bien les histoires, en me référant au disque de Tintin, de La Marque Jaune, de Black et Mortimer, de tout ça, quoi. Et il me dit, bon, alors, je vois ce que je vais t'offrir. Et il m'a offert un disque d'un récital de Chopin. Et j'ai trouvé ça très extravagant, parce que c'est pas du tout ce que je lui avais demandé. Mais ça a été ma première confrontation, ma première fréquentation de la musique dite classique. Et moi, quand il m'a offert ça, je me suis forcé à sourire et je me suis dit, mais pourquoi il me donne ça? Et en fait, il avait raison, c'était magnifique.
Voilà, et vous dites d'ailleurs des années après que finalement, vous en voulez presque un petit peu à vos parents de ne pas vous avoir fait apprendre le piano.
Ah ben, je leur en veux beaucoup, oui, enfin, parce qu'ils ne m'ont jamais proposé ça. Si encore ils me l'avaient proposé, que j'ai refusé, je pourrais leur en vouloir de ne pas avoir insisté. Mais ils ne m'ont jamais proposé d'apprendre. Mais
il faut toujours en vouloir de quelque chose à ses parents, c'est ça?
Oui, ben, enfin, si je leur en veux que de ça, ce n'est pas très grave.
Parce qu'il faut dire que votre père a été, moi j'ai découvert ça en lisant quelques livres qui vous sont consacrés, notamment votre dictionnaire. Votre père a été un complice extraordinaire de vos débuts de tout jeune cinéaste. Il faisait des courts-métrages en famille avec vous, votre frère, etc. Il s'investissait complètement là-dedans.
Il était médecin, il était gynécologue, il avait une vie extrêmement active, peu de moments de liberté et de loisirs, mais sa passion c'était le cinéma, donc il m'a communiqué ça parce qu'on allait au cinéma ensemble, il m'emmenait au ciné-club. Enfin bon, il m'a vraiment donné le goût du cinéma. Et c'est vrai qu'avec la caméra 16 mm, une Beaulieu qui se remontait à la main, il me prêtait cette caméra et on faisait des films, notamment des films d'animation. Et le dimanche après-midi, je nous revois, mon frère et moi, à plat ventre sur la moquette de notre chambre, en train d'animer des bouts de papier découpés. Et lui, assis sur un tabouret avec la caméra qu'il avait basculée à la verticale, en train d'appuyer image par image. Les petits bouts de papier, il a consacré un temps fou à ça, quoi.
Alors oui, il le faisait très sérieusement.
Ah bah oui, puis il avait sans doute mieux à faire.
Alors, Chopin, bien sûr, mais vous avez eu aussi, c'est générationnel, votre période yéyé, on peut dire.
Non, pas tant que ça. Parce qu'en fait, j'avais une grand-mère maternelle que j'adorais, Jeanne Guilin, qui n'avait pas d'électrophone chez elle, et qui, lorsqu'elle venait nous garder rue Traversière à Tours, nous amenait des 45 tours, Aznavour, Piaf, Beko. C'est-à-dire que je me suis plus initié à la chanson française traditionnelle, ou traînée par exemple, Brassens, n'en parlons pas.
La belle chanson française. Ouais,
que j'aime toujours autant. alors que mon frère aîné, François, lui, était plus fun, quoi. C'est-à-dire qu'il me disait, mais faut pas écouter ces trucs-là, c'est de la merde. Enfin non, il me disait pas c'est de la merde, mais il me disait qu'il y avait plus intéressant, plus actuel, en tout cas. Et c'est comme ça, lui, avec son argent de poche, il a acheté Dick Rivers, Les Chats Sauvages, Les Fingers, ça vous dit rien, Les Fingers, parce que c'était un groupe assez gratiné. Enfin, bien.
Et France Gall, c'était qui alors?
Ah, France Gall, c'était moi. Moi, France Gall, mon amour de France Gall, c'est moi depuis toujours.
Depuis toujours?
Depuis France Gall Berger.
Mes vacances, c'est toujours Paris. Mes projets, c'est continuer. Mes amours, c'est inventer. Si maman, si. Si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître. Si maman, si, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris. Passer le vent, mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiment. Si maman, si, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman,
Patrice Lecomte, qui retrouve donc France Gall ici sur France Musique. Il est un peu surpris, mais non.
Non, je suis pas surpris. Je suis pas surpris de retrouver France Gall, puisque c'est une de mes chansons favorites. Si maman si, c'est un truc. Si on écoute attentivement, c'est déjà très joli, très beau en soi, et très bien composé, très bien écrit, mais si on écoute.
Paroles et musique de Michel Berger.
Et si on écoute un peu plus avant ce que ça raconte, c'est une chanson très émouvante. Et je me souviens, à une émission de Michel Denisot, Coluche avait appuyé contre un piano, accompagné juste par un pianiste, chantait cette chanson.
Ah oui?
Et c'était génial. Coluche chantant Si maman si, il chantait juste, il chantait faux, il chantait de son mieux, mais c'était chargé d'une émotion. Retrouver ça, écouter ça, c'est formidable.
Alors Patrice Lecomte, on l'a dit, vous avez fait des courts-métrages en famille, mais vous avez fait aussi beaucoup de courts-métrages dès l'instant que vous avez commencé à décider de faire du cinéma. Vous êtes d'ailleurs passé par l'IDEC, vous avez fait quelques critiques même pour les cahiers du cinéma, mais bon, tout ça a été le chemin, on pourrait dire, apparemment normal d'un jeune cinéaste français de votre génération, sauf que vous avez fait des détours pour revenir et arriver peut-être à ces premières comédies qui ont été si novatrices. Et ce détour, ça a été notamment peut-être la BD, la rencontre notamment avec Gottlieb.
J'étais étudiant de cinéma à l'IDEC, ouais, qui était l'Institut des hautes études cinématographiques.
Voilà. Qui n'a jamais produit de grands cinéastes, avez-vous dit?
Non, à part moi-même. Non, pardon. Ça, c'est d'une prétention folle. Non, mais il est vrai que les anciens de l'IDEC, Robert Enrico avait fait l'IDEC.
Oui, voilà, il y en a deux.
Carlos Villard-Debeau, à l'IDEC, il disait, il y a quand même Alain René qui est passé par chez nous, il restait que 2 mois et demi, ça ne le disait pas. En revanche, la FEMIS, qui est une bien meilleure école, a généré des cinéastes intéressants, importants et plus nombreux. Quand j'étais à l'IDEC, je lisais goulûment, assidûment, ce magazine hebdomadaire qui s'appelait Pilote, qui était un magazine de bande dessinée dans lequel il y avait Gottlieb, qui me collait au plafond de bonheur. Et moi, j'ai écrit à Gottlieb en disant « J'adore ce que vous faites. » J'ai écrit au journal, c'est pas très compliqué. « J'aimerais bien prendre un café avec vous. » Et il m'a dit « Bah, volontiers. » Et donc, on s'est connus, on a fait connaissance, on est devenus assez copains, on allait au cinéma ensemble, on dînait ensemble, on s'est invités chez l'un, chez l'autre. Enfin bon, la vie, quoi, la vie amicale.
Il adorait Brassens, je crois.
On s'entendait bien, il adorait Brassens, oui. Entre autres. Et plein d'autres choses. Et puis, je lui ai montré les dessins que je faisais, un petit peu comme si je l'avais piégé, du genre, maintenant qu'on est copains, je vais te montrer ce que je fais. Et c'était pas un piège, quoi. Je voulais avoir son avis sur ce que je faisais. Et il m'a dit, mais c'est intéressant, je vais montrer ça à Goscinny. Il a montré mes dessins à Goscinny. Goscinny m'a fait appeler en disant, rendez-vous mercredi à 14h30 dans mon bureau. Et je suis allé, il m'a dit, bah, écoutez, c'est bien ce que vous faites, travailler pour le journal. Mais c'est passé de manière aussi simple. Aujourd'hui, ça semble être un conte de fées, c'en était un, sans doute.
Vous n'êtes évidemment pas devenu dessinateur, c'était d'ailleurs pas votre but, mais est-ce qu'on peut dire quand même que ce passage dans ce monde justement très fantaisiste, de pilote, des BD de Gottlieb, c'est quelque chose qui vous a aidé à trouver, au fond, votre style cinématographique?
Oui, ça m'a pas empêché, ça m'a aidé. J'avais l'impression que c'était un beau tremplin, assez idéal, pour fertiliser l'imagination, le goût de la fantaisie, le goût des histoires courtes,
le
ramasser à l'essentiel l'humour, enfin toute chose qui faisait partie de moi et que je courais après ça tout le temps.
Mais qui n'était pas forcément très très bien vu dans la culture post-68 tard, un peu sérieux.
Ah non, c'est de vouloir faire poiler ses contemporains, ça a toujours été très mal vu.
De toute façon.
Même Molière, on lui jetait des pierres, donc si vous voulez, quand vous faites les WC de Fermin intérieur puis les bronzés, on dit, mais c'est... Enfin, les comiques, enfin, j'ai pas un statut de comique, mais c'est vrai que j'ai commencé à faire mon travail, à faire mes films, en faisant des comédies, ce que j'ai adoré, et ce que je continue à aimer, mais c'est pas super bien vu, quoi.
Mais ça me fait plaisir d'ailleurs, parce que bien souvent, moi je connais ça dans l'émission, on reçoit une grande vedette de la chanson ou autre, puis on a quelques scrupules à lui reparler de ses plus grands succès, parce que ça, faut qu'il les traîne toute sa vie et qu'il en parle toute sa vie. Vous, les bronzés, vous assumez, vous en êtes heureux et vous en êtes fier.
Comment ça, évidemment que j'en suis fier. Et certains journalistes, donc pas vous, me disent, bon, les bronzés, on oublie. Hein. Je dis, comment ça, on oublie? On n'oublie pas, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que mon premier film a été douloureux et en plus un échec. Et après est arrivée la connivence avec le groupe du Splendide. On s'est bien entendu, on leur propose de faire les bronzés. Ils disent oui, mais ils m'imposent sur le film.
Oui, parce que vous leur aviez proposé un scénario qui n'avait pas pu se faire, mais ça leur avait bien plu, quoi.
Mais ils avaient bien aimé les WC de Fermé l'intérieur. Ils trouvaient qu'il y avait un petit vent générationnel nouveau. Je leur avais proposé un scénario qui était destiné à eux tous, qui n'a jamais pu se faire. Et puis là-dessus, ils font enfin l'adaptation de Amour, Coquillage et Crustacé, leur pièce qui avait un grand succès au Café Théâtre du Splendide, et qui est devenue Les Bronzés, et ils m'ont, oui, ils m'ont imposé. Ils ont dit à Yves Rousserrois, le producteur, on va faire le film avec Patrice, on s'entend bien avec lui. C'est vrai qu'on est de la même génération, on a en gros le même âge, je suis un petit peu leur grand frère, mais pas tant que ça. Et ce film a changé ma vie, a été... Oui, ça a été après des années un peu sombres dues à l'échec des WC de fermer l'intérieur, les années sont devenues plus ensoleillées.
Voilà. Vous aviez des modèles, des références dans le genre de la comédie sociale, de la comédie de mœurs, des choses que vous aimiez simplement, particulièrement?
Non, sincèrement, et pardon, mais j'avais pas vraiment de modèle. Le seul sentiment que j'avais, c'était que l'humour dans les films, les comédies, c'était les films de Gérard Oury, Robert Lamoureux,
bien sûr,
des choses
oui.
comme ça, donc des choses un petit peu dépassées, me semblait-il, ou que, en tout cas, l'esprit qui a fait théâtre rendait caduc.
Ouais.
En partie, hein. Et d'un seul coup, quand on est arrivé avec ces films-là, Les Bronzés, puis il y a eu quelques autres, ça a changé la donne terriblement. Et des tas de gens, si les films ont eu du succès et continuent à en avoir, comme si on avait inventé le film inusable, si ces films ont eu du succès, c'est parce que, en termes de génération, des gens plus jeunes se sont retrouvés dans cet humour-là.
Alors on va nous retrouver un petit peu Michel Blanc sur son télésiège et puis un petit morceau de la musique des Bronzés.
Pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux.
La musique de Pierre Bachelet pour Les Bronzés Fond du Ski, le volume 2 donc de la série qui en comporte 3, Patrice Lecomte. Mais alors, bon, ça c'est la musique du film simplement, mais la chanson que tout le monde connaît donc de Jean-Claude Duss, oui, sur le télésiège, elle a elle-même une histoire.
Bah, elle a une histoire parce que tout le monde imagine qu'il chante « Étoile des neiges ».
Oui.
Et le fait est...
Bah, c'est « Étoile des neiges », oui.
Eh ben non. Eh ben non, parce que Étoile des Neiges, sur son télésiège, Michel chantait le jour du tournage « Étoile des Neiges », etc. Et puis on a appris, une fois que le film était au montage, que Étoile des Neiges, les droits appartenaient à deux bretonnes à Proguin et qui demandaient une fortune pour les droits de Étoile des Neiges, alors qu'on pensait que c'était dans le domaine depuis Belle Lurette. Et donc le compositeur, Pierre Bachelet, m'a dit « c'est pas grave ». On va faire un truc façon Étoile des Neiges. Oui. Tout le monde croira que c'est Étoile des Neiges.
Sauf
que c'est pas Étoile des Neiges. Il a changé les notes. Et alors, donc, effectivement, on a gardé les mêmes rimes. Comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et au lieu de faire Étoile des Neiges, ça fait Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Et les deux bigoudaines à Proguin l'ont eu dans le dos.
Dans le dos, voilà, joliment dit. Patrice Lecomte, dans votre livre « Le dictionnaire de ma vie » qui vient de paraître, réalisé avec François V, qui est d'ailleurs, je crois, un journaliste de notre maison, vous parlez donc beaucoup de la musique. Et alors, vous allez jusqu'à dire que bien que vous n'êtes pas musicien, le cinéma, pour vous, est avant tout une affaire musicale, carrément.
Oui, parce que je suis pas musicien, c'est-à-dire si vous me mettez avec une guitare, un piano, je sais pas, enfin, je suis incapable de sorte, j'ai pas ça, mais je suis pas musicien, mais je suis très auditeur, c'est-à-dire que je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais pourquoi j'aime ça, je sais pourquoi j'aime pas ça, donc je suis un auditeur éclectique, mais avisé.
Oui, mais vous dites que c'est au centre de la construction d'un film, oui. Alors qu'on sait que la plupart des cinéastes commencent à penser à la musique une fois que le film est terminé.
Oui, comme si la musique arrivait parfois comme une ambulance, mais en tout cas comme la 15e roue du carrosse pour, bon, bah, maintenant que le film est fini, où est-ce qu'on va mettre de la musique? Et moi, je me pose pas en exemple, je ne détiens aucune vérité, loin de là, mais c'est vrai que pour moi, un film, quand je pense à un film, quand j'écris un film, quand je prépare un film, je pense déjà à la musique, bien que je fasse pas des comédies musicales, je pense déjà à la musique, parce que pour moi, effectivement, le cinéma est une affaire musicale en termes de rythme, de construction, de temps fort, de temps faible, d'arrêt, de soupir, c'est des choses qui sont, oui, très très musicales, quoi. J'ai souvent, pas aussi souvent que j'aurais voulu, mais j'ai souvent fait des films dont la musique était composée avant que je les tourne.
Avant, c'est-à-dire que vous voyez le compositeur,
vois le compositeur,
vous lui parlez du film.
Oui, c'est ça, je fais lire le scénario, je lui raconte quelles sont les images qui me trottent en tête, je lui raconte avec mes mots, n'étant pas musicien, mais des mots qu'il arrive à comprendre, le compositeur que j'ai choisi, je lui explique quelle musique je veux, quelle ambiance, on parle même d'orchestration. Et puis le compositeur écrit des maquettes qu'il enregistre avec les moyens modernes, c'est assez facile, pour avoir déjà mieux que des bribes de musique. Et après, on met ça au propre une fois que le film est terminé. Mais la musique est souvent, enfin parfois, composée avant que je tourne.
Alors parmi les musiciens avec qui vous avez le plus travaillé, on parlera tout à l'heure d'Étienne Perruchon, mais il y a eu aussi Pascal Estève.
Il y a eu Pascal Estève, en effet. Récemment, il y a eu Gabriel Yared et quelques autres. Et puis, je suis très, très heureux d'avoir fait deux films avec Michael Nyman. J'aurais adoré travailler avec Philippe Glass, mais si...
Ah oui, j'ai vu que vous aimiez beaucoup la musique de Glass.
Ah oui, j'adore Philippe Glass, je connais tout par cœur.
Ouais.
Et on s'est approché, on s'est écrit, et puis il y a ce Max Richter que je porte au nu, et j'essaye de mettre la main sur lui, c'est pas commode.
Parmi les acteurs qui ont travaillé avec vous, il y en a un, évidemment, immense, qui nous a quittés récemment. Vous n'avez pas pensé à le faire chanter dans L'Homme du Train, Johnny Hallyday?
Non, mais Johnny, il était hors de question de lui faire jouer le rôle d'un chanteur ou d'un rockeur. C'est ça qui l'a séduit beaucoup. Ouais. C'est que je lui faisais pas jouer Johnny Hallyday, je lui faisais jouer Milan, qui était un mec qui déboule du train, du TER, dans une petite ville de province pour faire un casse un peu triste, quoi. Enfin, ça lui a plu énormément. Et je pense que lui aussi a été très sensible. Et moi, un des plus beaux compliments qu'on ait pu me faire sur le film, c'est qu'au bout de 5 minutes, on oubliait que c'était Johnny Hallyday. Bon, ouais. Évidemment, on n'oublie pas plus qu'on oublie que c'est Jean Rochefort, etc. Bien sûr. Mais il aurait été surréaliste, absurde. Ça aurait été une mauvaise action même de lui faire trouver une
guitare. Pousser la chansonnette.
Et de dire allumer le feu au moment où Jean Rochefort foutait l'allumette sous les bûches.
Il était comment, Johnny, dans le tournage, dans le travail?
Une merveille. Cet adjectif est galvaudé, c'est dommage. Johnny était, et puis c'est chiant d'en parler à l'imparfait, mais bon, c'est comme ça. Mais Johnny était un type gentil,
oui.
Généreux, ouvert aux autres, attentif aux autres. C'était pas un mec qui roulait des mécaniques. Et quand on le voit sur la scène du Stade de France, on imagine qu'il est... Mais non, mais dans la vie normale, quotidienne... débarrassé de tout, c'est-à-dire que dans un rapport non public, et notamment sur le tournage, c'était un type charmant, attentif, très professionnel, voulant être à la hauteur de Jean Rochefort. Et Jean Rochefort me disait, mais comment on joue avec un rocker? Je lui dis, tu vas voir, ça va se passer bien.
Parmi tous vos films, Patrice Lecomte, il y a aussi des films d'époque, des films en costume. Et je me rappelle, parce que je le connaissais un peu, le compositeur Antoine Duhamel, qui était très très fier du travail qu'il avait fait pour Ridicule, dans un style effectivement baroque, versaillais.
Oui, il pouvait être fier, et je m'en veux qu'on ait cité quelques compositeurs avec lesquels j'ai pu travailler.
Antoine avec sa grande barbe.
Et de pas avoir dit... Je lui disais qu'il me faisait penser à Zizi Top, mais il connaissait pas. Donc il disait, mais c'est drôle ce que tu dis ou pas. Je dis, bah, je sais pas, mais c'est pas méchant en tout cas. Et j'adorais Antoine. Il était très agité tout le temps. C'est-à-dire qu'il était jamais en repos. Mais il était inventif Et précieux, quoi. J'ai adoré. Lui aussi, alors voilà un homme. Je lui ai parlé du film alors qu'on était en train de le tourner. Il est venu nous voir tourner. Je lui ai parlé de la musique que j'avais en tête, enfin de ce que je souhaitais de sa part. Mais si j'ai mis la main sur Antoine Duhamel, c'est parce qu'il a composé des partitions mais sublimes, ouais, pour Godard notamment,
Pierrot le Fou
et une partition admirable pour un film totalement inconnu de Jean-Daniel Paulet qui s'appelle Méditerranée. Et la suite d'Antoine Duhamel pour Méditerranée, c'est une pure merveille.
Alors, ce qui est bien, en tout cas, dans la musique de Ridicule, c'est que c'est vraiment du style de 18e siècle, mais il y a un peu de Duhamel aussi qui passe là-dedans. Il a réussi à faire de la musique personnelle.
Oui, alors c'est un travail très personnel de sa part. Et on avait convenu, lui et moi, je lui avais dit, Antoine, c'est pas compliqué. Soit tu écris une musique, un score actuel, comme on ferait pour n'importe quel film, et on le fait jouer par des instruments et un orchestre baroque. Soit tu écris une musique à la manière de la musique 18e, baroque, etc. et on la fait jouer par des instruments modernes. Et il m'a dit, je pense que la première solution est la meilleure, et il avait raison. Donc il a écrit une musique totalement libre, pas du tout en hommage au 18e, mais on l'a fait jouer par l'orchestre de Jean-Claude Malgloire, et ça donne un truc formidable.
Unité, immutabilité, éternité, c'est
lui, c'est Dieu.
Bravo Villecourt, c'est lumineux.
J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à Sa Majesté.
Tu finiras à la Bastille, j'y veillerai, philosophe.
Madame, le roi semble manquer d'esprit aujourd'hui. Je comprends pas mon insuccès.
L'art, Villecourt, est de briller en restant à sa place.
Et c'était Bernard Giraudot, là.
Donc, et puis la dernière phrase, c'était Fanny Ardant.
Fanny Ardant, bien sûr, dans Ridicule, avec la belle musique d'Antoine Duhamel. On parle aujourd'hui avec Patrice Lecomte, qui sort donc un dictionnaire de sa vie. C'est toujours amusant, le principe du dictionnaire, ça vous est venu comme ça, tout naturellement?
Non, ça ne m'est pas venu à moi, j'aurais jamais osé faire ça. C'est François V, ce journaliste vraiment brillant, qui un jour m'a proposé ça, parce que aux éditions Kéro, il y a de début de cette collection, de faire le dictionnaire de ma vie avec des gens différents. Et j'ai dit à François, écoutez, oui, on va essayer, on va bien voir. Et puis c'est lui qui me proposait les entrées. A comme, B comme, donc A comme acteur, B comme bronzé. Et à chaque lettre, il me proposait plusieurs entrées. Il venait me voir, on a fait plein de séances comme ça pour avancer dans ce dictionnaire, lettre après lettre. Et à chaque fois, il y a plusieurs entrées, ils m'ont préparé rien. Et moi, spontanément, je disais, oui, B comme bronzé, d'accord. Et on partait là-dessus.
Mais en tout cas, c'est bien, ça fait des vrais chapitres. Avec des développements, des anecdotes parfois drôles.
Et puis au moins, on est sûr qu'au Z, ça s'arrête.
Exactement, Z, c'est Zoom. Hein. Ouais. Il y a X, film X également.
Ah oui, ça c'est important.
C'est important. Il y a Hollywood. C'est drôle, l'histoire, justement. C'était pour Ridicule que vous avez failli obtenir l'Oscar du meilleur film étranger, qui vous était apparemment promis, mais vous aviez une espèce d'accompagnatrice américaine dans tout de votre séjour à Hollywood, c'est très drôle. Racontez-nous.
Dolores Garcia, c'est-à-dire que vous arrivez à Hollywood, moi je ne connaissais pas le processus, on arrive à Hollywood, on y passe 5 jours avant la cérémonie des Oscars, et puis vous êtes flanqué de quelqu'un qui vous accompagne, qui est une espèce de coach totalement bilingue et qui vous aide dans les moments où vous perdez pied avec l'anglais. Elle s'appelait Dolores Garcia, elle était absolument charmante, et c'est tout juste si elle ne me massait pas les épaules comme on les masse à un boxeur avant un round.
En vous répétant à tout bout de champ,
c'est, tu vas la voir, tu vas la voir. Moi, je, que, comme si elle était dans le secret des dieux, tu vas la voir, tu vas la voir. Et donc on est arrivé après des tas de cérémonies, de brunch avec des gens insensés. Enfin bon, c'était merveilleux, quoi. Déjà, ce que j'ai vécu, c'était déjà un Oscar en soi. Et puis la cérémonie arrive, et puis l'Oscar du meilleur film étranger, on était 4 en lice, arrive un petit peu vers la fin. C'est une cérémonie très longue, presque aussi longue que la cérémonie des Césars. Mon cœur battait très fort parce que j'avais préparé un petit compliment, mais à pisser de rire. Enfin, de drôle, enfin, enlevé, intelligent, comme je suis moi-même. Non, pardon, c'est pour rire. C'est pour rire. En anglais, bien sûr. Ah, mais c'est pour ça, j'avais préparé à don. Et puis est arrivé le moment, et donc j'avais assise à ma droite ma femme, et assise à ma gauche Dolores Garcia, mon coach, qui croyait beaucoup en moi. Et puis l'enveloppe s'est ouverte. Et puis ça a été un film yougoslave qui s'appelait Kolia qui est sorti de l'enveloppe. Moi j'étais anéanti, dévasté parce qu'on m'avait tellement dit que c'est moi qui, enfin moi, le film qui allait avoir l'Oscar. Donc je me retourne vers ma femme à droite et qui me dit gentiment, en embrassant, pas trop déçu, t'inquiète pas, le film est formidable. C'était super gentil de sa part parce que vous voyez que la terre s'était ouverte sous mes pieds. Et puis je me tourne à gauche pour dire à Dolores Garcia quelque chose. Et ben elle était plus là. Le fauteuil était vide. Et comme elle n'était pas en bout de rangée, je sais même pas comment elle s'est barrée.
Et vous l'avez jamais revue?
Jamais.
Et vous allez on reste pas avec les perdants, quoi.
Non, jamais. Non, mais les Américains, ils aiment pas les perdants.
C'est quand même extraordinaire.
Alors, elle avait été mandatée. Peut-être qu'elle avait honte de m'avoir trop dit. Tu vas la voir, tu vas la voir. C'est possible. Et elle est partie. Et la fin de la cérémonie était sans elle. Il y avait un fauteuil vide à ma gauche. Dolores Garcia a explosé en vol. Je sais pas ce qui s'est passé. Je lui ai écrit après, tranquillement, en disant, j'étais déçu, chère Dolores, de pas vous avoir revu. Elle a dit, mais c'est pas grave, la vie continue, le film est beau quand même. Elle m'a jamais répondu. Donc si vous avez des nouvelles de Dolores Garcia, appelez-moi. Parce que ça m'intéresserait beaucoup.
C'est comme ça que c'est arrêté ou que n'a pas commencé vraiment votre carrière américaine, même si vous avez eu des propositions.
Oui, il y a eu des propositions régulières, récurrentes. Chaque fois que j'ai fait un film qui avait le bonheur d'être distribué aux États-Unis, ça avait commencé avec Monsieur Hir, et puis après il y a eu Ridicule. La fille sur le pont a eu un succès, enfin le succès d'un film français aux États-Unis, hein, restons simples. Et chaque fois dans le sillage de ces sorties-là, il y a eu des propositions, mais... J'ai toujours été tenté, je dois dire, mais...
Vous sentez bien ici.
Ben, c'est-à-dire que c'est pas en étant...
Vous avez une liberté comme auteur en France que vous n'auriez peut-être pas.
J'ai une liberté assez grande en France. Est-ce que j'aurai la même liberté aux États-Unis? Je suis pas sûr. Mais en même temps, pour revenir totalement bilingue, c'est pas mal. Mais l'idée de faire un film aux États-Unis comme on ferait un stage à AFDAS, c'est pas bien.
Alors, Patrice Lecomte, on va peut-être continuer d'explorer vos goûts musicaux après les musiques de vos films, après Pierre et le Loup ou France Gall. Il y a aussi Brad Meldau. Vous l'avez même mis presque en tête des choses que vous aviez envie d'entendre aujourd'hui.
Oui, et avec grand plaisir. En tout cas, cet album-là, il y a plusieurs titres qui sont formidables et que je peux écouter en boucle quand je suis là, quand je suis en train de travailler.
Vous écoutez beaucoup de musique?
Ah oui, tout le temps.
Tout le temps?
Ah, tout le temps, tout le temps.
Même en écrivant?
Oui, et quand j'écris, je choisis ce que je mets pour m'aider.
Pour que ça vous aide. Quelque chose que vous connaissez déjà qui vous...
Voilà. Et lui, là, je l'écoute beaucoup, beaucoup. Thank you.
Brad Meldao, l'album Songs, ce morceau s'appelait Exit Music, et je crois que d'ailleurs c'est une reprise d'un titre de Radiohead de 1997. En tout cas, merci Patrice Lecomte, c'est de la très très belle musique.
Ah oui, non, c'est magnifique. Et alors, franchement, c'est un ami, il y a plusieurs années, qui m'a offert ça en me disant, dès que t'as un coup de blues, tu peux mettre ça, ça va t'épanouir. Et c'est vrai que ce CD, il doit être usé jusqu'à la corde, je l'ai écouté, mais combien de fois, je sais pas. Et je le mets en boucle, je le mets en permanence.
Et pourtant, c'est une musique un peu mélancolique. C'est bizarre comme les musiques qui ont le blues nous guérissent du blues.
Oui,
on pourrait dire ça de Chopin aussi.
Parce que moins par moins égale plus.
Oui, ça doit être ça.
Ça doit être ça. Et si vous avez un coup de blues, enfin, vous n'êtes pas en grande forme et que vous écoutez une musique guirette, si vous mettez Reventura, par exemple, les collégiens, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
C'est pas ça qui va vous sortir de la mélancolie.
Attendez, moi, je suis malheureux. Arrêtez avec votre bonheur. Donc, je préfère avoir un compagnon un petit peu mélancolique, comme lui et quelques autres, parce qu'au moins on se sent moins seul.
Exactement. Patrice Lecomte, on parle beaucoup de musique et de cinéma, alors faut bien qu'on en vienne à la question du film musical que malheureusement vous n'avez pas réalisé, mais je voudrais quand même qu'on évoque un film qui s'appelle Dogora, que vous avez fait justement avec, pour la musique, Étienne Perruchon, qui a fait beaucoup de musique pour vous, et qui est presque un film musical, on pourrait dire, non?
Dogora, c'est une sorte de film musical, bien sûr.
2004.
C'est un film qui a été tourné alors que la musique existait, donc ce film a été tourné sur la musique. J'avais la musique dans les oreilles, j'avais des écouteurs pour me laisser porter par la musique d'Étienne.
Enfin, rappelez-nous un petit peu comment c'était conçu et construit.
Il se trouve que Étienne Perruchon, je fais sa connaissance au théâtre de l'Odéon. Il avait fait la musique de scène de Léon Séléna, une pièce assez formidable. Il était là, je fais sa connaissance dans les couloirs. Je lui dis que j'avais adoré, j'avais jamais entendu une note écrite par lui. J'avais adoré ce qu'il avait fait comme musique de scène pour cette pièce. Et il me dit, bah, écoutez, si vous aimez bien mon travail, je vous ferai parvenir quelques CD de mes musiques. Et parmi les CD que j'avais écoutés, qu'il m'avait envoyé une petite pile, il y avait cette suite pour un orchestre et un chœur de 80 enfants et qui s'appelait Dogora, mais ça m'a fait tomber à la renverse d'émotion, de force, de c'est brillant, intense, humain. Ça parle une langue inconnue qu'il a appelée dogorien parce qu'il voulait que ça chante et que ça parle, qu'il
a créé pour la musique.
Oui,
ouais, c'est ça.
Et il me dit, je lui en parle au téléphone parce qu'il a, à l'époque il habitait Annecy, je lui en parle au téléphone et il me dit, vous me parlez si bien de cette musique que je vous la donne, et j'espère qu'un jour, elle vous inspirera des images. C'était resté dans un coin de mon crâne, et puis un an plus tard, alors que cette musique ne m'avait pas quitté, je fais un voyage au Cambodge pour aller visiter, comme on dit, mon frère cadet qui travaillait là-bas, et ce pays m'a ému, bouleversé, séduit, ratatiné d'émotions, surtout, comme aucun autre pays au monde. Et puis d'un seul coup, au carrefour de deux rues, alors que je voyais ce ballet des motocyclettes insensées, la musique de Perruchon est remontée à la surface et je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais faire un film au Cambodge sur les musiques de Perruchon, qui n'ont rien d'asiatique, de cambodgien encore moins. Et je suis rentré à Paris. J'ai proposé ça à des producteurs chez Epithète, où ils ont Gilles Legrand et Frédéric Brion qui étaient intéressés, à qui avaient produit Ridicule, donc ils me connaissaient. Ils m'ont dit, on sait pas ce que tu veux faire, mais on te fait confiance. Et je suis reparti avec une toute petite équipe de 3 personnes, riches de la musique de Étienne Perruchon, pour filmer des images qui étaient des images qui étaient inspirées, alimentées, on a fait ce film, qui est un film musical d'une certaine manière.
Un documentaire musical?
Il y a que de la musique, des images, quelques sons, et j'ai beaucoup repensé pour avoir le culot de faire ce film. Pas le courage, hein, encore une fois, le courage c'est autre chose, mais pour avoir le culot de faire ce film, j'ai beaucoup repensé au film de Godfrey Reggio sur les musiques de Philip Glass, Koyanis Katsi, Boyas Katsi, enfin la trilogie des Katsi au titre imprononçable, qui sont des films que j'ai adorés. Et je me suis dit, je vais faire mon Boyas Katsi à moi.
Thank you.
Sushanishka d'Étienne Perruchon. C'est la musique du film Dogora de Patrice Lecomte. Et ça fait plaisir de vous voir l'écouter, Patrice Lecomte, parce que les auditeurs ne l'entendent pas, mais vous la jouez, cette musique.
C'est une musique qui m'emporte vraiment, quoi. Il y a une force vitale dans cette musique. Et par rapport au Cambodge, qui n'a rien à voir avec cette musique, le fait que le Cambodge soit en train de survivre malgré tout ce qu'il a vécu, ça, il y a une cohérence entre ça. Enfin bon, bref.
Vous avez dit d'ailleurs ce voyage, vous avez ému d'une façon extraordinaire, et parmi les choses que vous dites ou que vous avouez dans votre dictionnaire de ma vie, Patrice Lecomte, c'est votre sentimentalité.
Ah ben oui, je me méfie beaucoup des gens qui s'interdisent d'être sentimentaux.
Ouais.
Parce que à quoi ça rime d'être pur et dur et de ne pas se laisser avoir les larmes aux yeux et de refuser tout, comme si c'était de la sensiblerie, comme si c'était déchoir, comme si c'était se transformer en guimauve parce qu'on a les larmes aux yeux. Mais non.
Il vous arrive de pleurer en sortant d'un spectacle.
Je suis pas une pleureuse non plus, mais dès que quelque chose me touche, certains films, mais même des choses très simples, quoi, ou juste très belles aussi, me font pleurer. Enfin, oui, je suis très...
Alors, je reviens à la question du film musical, parce que vous êtes aussi auteur de nombreuses comédies à grand succès, donc comédie plus musique égale comédie musicale, et pourtant, je cherche dans votre catalogue...
Je rêve confusément d'un film qui serait un film musical. Bon, Dogora, vous l'avez dit, d'une certaine manière, un film musical. J'ai fait un film d'animation qui s'appelait le Magasin des Suicides, dans lequel, avec Perruchon, qui a fait la musique, une partition formidable, on a écrit des chansons, parce que ça me plaît d'écrire des chansons.
Oui, donc, mais tout ça une pièce chantée dans la tradition de la comédie et de l'opérette et tout ça.
Ça me titille, mais ce qu'il y a, c'est que par rapport au cinéma, il y a de tels modèles brillantissimes de comédie musicale.
Alors c'est quoi en France? C'est Demi Le Grand, on en revient là, où il y a eu des choses...
C'est pas mal, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais...
C'est ce que vous préférez.
Moi je suis plus Bollywood que Demi Le Grand, mais...
Bollywood, justement.
Ah oui, Bollywood, ils ont eu le talent, en fonction de leurs racines culturelles, musicales, artistiques, etc., ils ont eu le talent d'inventer des films... Des vrais films populaires, grand public, et qui se démarquent totalement de ce que faisaient Fred Astaire, Ginger Rogers, Minnelli, Stanley Donen, tout ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans le pastiche comme Et La La Land, dans le pastiche ou dans la remise à flot des comédies musicales d'autrefois pour faire la même chose en un petit peu moins bien. Un petit peu moins bien, parce que c'est vrai que Ryan Gosling, il est super, mais il est quand même moins bien que Fred Astaire. Je suis désolé pour lui, c'est un bon acteur, mais bon. Bref.
Alors qu'à Bollywood, on reste dans quelque chose d'immédiat, de premier degré, si on peut dire.
On est dans quelque chose d'autre. Et un des plus beaux films de Bollywood, c'est Devdas. La partition musicale est formidable. Les couleurs, les costumes, les danses, la chorégraphie,
Mais comment vous êtes tombé là-dedans, si j'ose dire, comme ça, par curiosité? Parce que vous regardez toutes les sortes de cinéma qui existent.
Curiosité, oui. Il semblerait que... Vous savez, il y a des tas de choses, comme la curiosité. Moi, quand j'étais petit, on me disait que c'est un vilain défaut. Moi, je trouve que c'est une qualité formidable.
Ah oui, je suis d'accord avec vous.
La légèreté, il paraît que c'est un vilain défaut. C'est une qualité formidable. Parce que le contraire de la légèreté, c'est la pesanteur. C'est pas très marrant, la pesanteur. Enfin, la lourdeur, mettons. Oui, j'ai été très curieux de plein de trucs et je suis tombé... je suis pas tombé dans la marmite du Bollywood.
Vous en avez plein, alors vous les regardez en...
Oui, surtout Devdas, qui est vraiment ce qu'on a fait de mieux, parce que tout est bien. Puis maintenant, je connais Devdas par cœur. Donc quand j'ai quelques instants à moi, ou qu'il fait gris dehors, et que je me mets un bout de Devdas sur la télévision, ou même simplement d'écouter la musique, mais c'est mieux quand il y a l'image.
On va l'écouter d'ailleurs, mais encore une question, si vous vouliez donc faire un film musical en France, ça pose aussi le problème que les acteurs ne savent plus vraiment chanter. Il y a eu un temps où les acteurs chantaient tous plus ou moins, mais...
C'est pas tout à fait vrai, je veux dire par là que... Alors on se réfère tout le temps à Jean-Pierre Cassel, qui était quand même le seul acteur français à savoir danser, faire des claquettes, chanter... Ouais. Un showman façon Amérique, mais dans les acteurs connus, je sais pas s'il y en a qui savent chanter ou danser, bien sûr que je crois que pas, mais en revanche quand on voit les comédies musicales qui se montent en ce moment à Paris, et je veux dire par là que quand j'ai vu Grise l'autre jour, j'étais heureux parce qu'il y a une troupe de gens formidables qui dansent, qui chantent, qui jouent la comédie et qui sont au top, quoi. Donc il y a
vous allez voir tout ça, donc
je vais voir le plus de trucs possibles.
D'ailleurs, il y a aussi une entrée sur le théâtre très intéressante dans votre dictionnaire de ma vie. Où l'on voit que c'est aussi toute une partie de votre vie.
Oui, en effet.
Alors, on écoute Dollaré, c'est le...
Alors, peut-être on peut pas l'écouter en entier parce que c'est vachement long.
Ouais.
Mais il faut peut-être le prendre en cours de route. Enfin, débrouillez-vous. C'est votre émission.
À la télévision, vous verriez presque Patrice Lecomte danser sur cette
Moins bien que les Indiennes.
Moins bien que les Indiennes. Hein. Mais quand même, Devdas, un petit chef-d'œuvre de Bollywood, qui est donc votre modèle pour le film musical que vous ferez peut-être un jour.
Mais je ferai. Il ne faudrait pas que je traîne trop non plus, parce que je ne suis plus un poulain de l'année, mais il faut trouver le concept. Oui, c'est une question de concept. Comment faire aujourd'hui un film musical intelligent, novateur, différent, qui me ressemble, qui copie pas. Enfin, c'est pas commode.
C'est pas commode. Bon, bah, écoutez, on vous laisse encore un peu de temps, mais ça me fait plaisir, hein.
Ah, mais moi aussi. Et si vous avez une idée, je suis preneur.
Patrice Lecomte, qui vient de publier le dictionnaire de ma vie, donc de sa vie. C'est pas la mienne. Mais, dedans, donc, où il nous livre son amour du théâtre, son amour de la musique, sa sentimentalité, son amour des acteurs et son amour de la radio.
Oui. Quand on doit faire, mais sincèrement, je suis ravi d'être là.
Oui,
parce que c'est de la radio,
plaisir,
parce qu'on a le temps de parler, enfin parce que c'est plaisant.
Déjà, à la radio, on a le temps. C'est banal de le dire, mais c'est important.
Et c'est pour ça que j'aime bien. Mais c'est surtout, mon amour de la radio, c'est plus que de la télévision, c'est parce que la radio me fait plus rêver. Quand j'étais petit, on écoutait la radio avec mon frère. On partageait la même chambre. rue Traversière à Tours. Et à cette époque-là, il y avait des tas d'émissions de radio. Il y avait Arsène Lupin, Rouletabille, il y avait le Club des Rescapés
des
de Pierre Bellemare.
Avec les
bruitages de Louis Matabon. Pourquoi on se souvient de Louis Matabon qui faisait le bruitage? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, et avec des bons acteurs, des trucs, on éteignait les lumières, on mettait juste la pénombre et on écoutait ça. Moi, j'étais allongé à plat ventre sur mon lit avec les pieds qui se croisent derrière et on écoutait ça. Et je voyais déjà les images, quoi. Donc, j'ai vraiment toujours eu le sentiment que la radio fertilisait mon imagination alors que la télévision nous montre les trucs.
Bah oui, c'était déjà là.
Même quand j'écoutais une conversation, un débat entre des gens qui pouvaient m'intéresser et que je connaissais pas, j'imaginais leur binette. Est-ce qu'il a un gros nez, des lunettes? Est-ce qu'il a plus de cheveux? Enfin, ça me permettait de rêvasser, quoi.
Ben oui. Et c'est comme ça que vous êtes devenu, alors que vous étiez déjà célèbre et que vous n'en aviez aucun besoin, chroniqueur de radio d'ailleurs, à plusieurs reprises
oui,
par la suite.
Le meilleur souvenir, c'est quand Jean-Luc Hesse, pour France Inter, m'avait demandé de faire des chroniques, des choses comme ce que fait François Morel aujourd'hui de manière tellement brillante, tellement drôle, tellement talenteuse.
Le vendredi matin.
Et moi, je faisais des billets d'humeur, mais j'avais dit à Jean-Luc Hesse, je veux bien faire des billets d'humeur, mais que ce soit des billets de bonne humeur. Et ça s'appelait Moment d'égarement. J'ai fait ça pendant un peu plus d'un an. Et j'aimais beaucoup ça. J'étais libre, quoi, d'inventer n'importe quoi. Et puis après, j'ai été à Europe. J'aime beaucoup Laurent Ruquier. J'ai été chroniqueur dans son émission. C'est vrai que ce que vous dites, j'ai pas besoin de ça, mais ça m'amuse de faire plein de trucs que je suis pas censé savoir faire.
Mais alors, si vous voulez venir nous parler de Bollywood à ce micro, vous êtes toujours bienvenu, Patrice Lecomte. Et merci en tout cas de nous avoir communiqué cette bonne humeur pendant toute cette matinée. On va se quitter avec Max Richter.
Oui.
Alors là, faut quand même que vous nous disiez un petit peu aussi cet amour que vous avez pour ce musicien et la façon dont il revisite aussi le répertoire.
Max Richter, j'ai le dernier album qui est, je sais pas, j'ai lu un article, j'ai acheté l'album, le CD. Je suis tombé en arrêt devant ses compositions, son atmosphère musicale qui entremêle des textes en anglais. Enfin, ça m'a collé au plafond. Alors, je me suis précipité sur les achats en ligne pour voir tout ce qu'il avait fait, cet homme-là, et j'ai acheté plein de trucs. Et parmi ces plein de trucs, il y a Vivaldi, les quatre saisons, revisité par Max Richter.
Voilà. Librement revisité, c'est très, très
librement,
bien.
Mais avec respect en même temps. Oui, il fait pas le zazou. et il revisite les quatre saisons. Et il y a un passage, je sais pas lequel on a choisi ensemble.
On a choisi l'été.
Oui, ça tombe bien,
puisqu'on est en hiver.
Patrice Lecomte. Et c'est merveilleux.
Juste un petit mot, vous travaillez là au prochain?
Oui, il y a des trucs qui se trament. Il y a eu des films qui se sont pétés la figure. Donc je peux pas rester sur des échecs, donc j'y retourne et le bouquin d'entretien s'appelle J'arrête le cinéma, pas le dictionnaire là, mais un truc que j'ai publié il y a quelque temps, et je sais pas si ça doit vous rassurer, mais je n'arrête pas.
L'été tiré des quatre saisons de Vivaldi revue par Max Richter. Un choix de mon invité aujourd'hui, Patrice Lecomte. Alors je vous recommande évidemment de lire le dictionnaire de ma vie de Patrice Lecomte qui vient de paraître aux éditions Kairo. Et puis pour les fans des bronzés, je signale que le mercredi 17 janvier à 20h à Paris au Grand Rex, il y aura une grande soirée spéciale pour les 40 ans des bronzés. La merveilleuse Java Manouche, jouée par Jo Priva dans son album Manouche Party.
France Musique, Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Et pour bien commencer cette année 2018, et oui, je vous ai rassemblé quelques petits cadeaux musicaux, après Jo Priva, eh bien, j'ai choisi quelques extraits de Chanson Gitane, la dernière opérette de Maurice Yvain, qui est un petit chef-d'œuvre, un résumé, on pourrait dire, de tout son art. Il va même un peu au-delà de ce à quoi il nous avait habitués avant la guerre, le grand Maurice Yvain, dans Chanson Gitane, qui fut créé au Théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris le 13 décembre 1946. Je vous propose d'écouter d'abord, dans le deuxième acte, la valse de Paris, chantée par la merveilleuse Liliane Berton.
Vous qui briguez les faveurs de ce peuple frondeur, ardent moqueur, de ce pays où dit-on tout finit sans façon par des chansons, voulez-vous sans peur et sans danger gouverner son cœur charmant pour un
orchestre et chœur Raymond Saint-Paul sous la direction de Marcel Carivène, avec donc ici Liliane Berton dans le rôle de la duchesse de Berry, une grande valse dans laquelle Maurice Yvain semble rendre hommage à toute la tradition de l'opérette. Mais ailleurs, dans cette même opérette chanson gitane, il fait aussi des clins d'œil à sa propre réputation et notamment à cette façon qu'il avait depuis ses débuts, Maurice Yvain, d'écrire des ensembles très très bien ficelés avec les voix qui se mélangent, qui se superposent, qui se décalent. Et c'est le cas justement toujours dans ce second acte, juste avant la valse de Paris, du quatuor intitulé « Mon papa ».
Mon papa, t'es pas comme à l'ordinaire, mais qui t'a mis dans cet état?
Cet état n'est pas du tout ton affaire, ton papa ne répondra pas.
Nicolas, cher Nicolas, papa, il nous fit de ses manières, Nicolas, Nicolas, Nicolas,
quatre, mettre le holà, ne va complique pas,
cherchons nos embarras,
où tu sauras de chocolat.
J'avais jusque-là suivi mon maître pas à pas. En bon Nicolas, je vivais des jours sans éclat. Je me languissais d'une aventure, je rêvais. Cette fois c'est fait, j'ai mon mystère et mon secret.
Un mystère, un secret, qu'est-ce que c'est?
Vous roulez des yeux surpris, vraiment n'auriez-vous pas compris que toujours un homme est pris quand une femme il met le prix?
Papa, tu te ris de nous?
Pas du tout.
Tu n'es pas devenu fou?
Pas du tout.
On t'a changé d'un seul coup?
Pas du tout.
Pour voler de mes filles, suffit qu'il voulait faire un effet, c'est vrai.
Ne nous chicanons pas, ne nous embrouillons pas, et suivons pas à pas ce que nous dit papa. Ne nous chicanons pas, ne nous embrouillons pas, et suivons pas à pas ce que nous dit papa. Il ne faut jamais se mesurer, faut avoir
confiance.
La colère ne
donne
pas de vin trop fort, le plus calme est le plus
fort.
Ne nous chicanons pas,
ne nous embrouillons
pas,
nous n'en sortirons
pas, nous n'en sortirons pas.
Suivez-moi,
suivons le pas à pas,
nous maintiendrons
la colère de le faire,
de faire s'embrouiller, ne n'est pas pour pas.
La conclusion,
c'est que
nous sommes
un
signe qu'elle se dit ça, parce que nous ne sommes pas pas.
Le quatuor du deuxième acte de chanson gitane par Duvalex, Rogers, Gismé et Linda Felder, un morceau dans lequel effectivement Yvain renoue avec la verve qui était celle de là-haut de ta bouche et de ses premières opérettes. Et pour terminer cette émission, nous allons passer du pays des Gitans à l'Arménie. L'Arménie qui a inspiré la plupart des mélodies d'Aram Khachaturian, grand compositeur dont on parle trop peu selon mon goût. Alors, pour le plaisir et parce que c'est de la très belle musique à la fois divertissante, émouvante, frémissante, je vous propose d'écouter le troisième mouvement du concerto pour violon de Khachaturian, une œuvre qui était très populaire autrefois, qu'on n'entend plus assez dans les concerts. Les grands violonistes la boudent un peu, ils ont tort, quoique je crois que Renaud Capuçon l'ait repris il n'y a pas si longtemps que cela. Mais nous allons retrouver son créateur, donc David Oistrakh, avec l'orchestre symphonique de la radio du RSS, sous la direction de Khachaturian lui-même, dans le troisième mouvement, donc Allegro Viva de ce concerto pour violon et orchestre composé en 1940.
Thank you.
Magnifique enregistrement de 1970 avec David Oistrakh et l'orchestre symphonique de la radio du RSS sous la direction du compositeur Aram Khatchatourian. C'était le troisième mouvement de son concerto pour violon et orchestre, Khatchatourian, qui nous a quittés en 1978, il y a 40 ans. J'espère que ce sera l'occasion d'en parler un peu cette année. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Pascal Bénard, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain, je recevrai la chanteuse et artiste d'opérette Josie Andrieux. Bon week-end à tous. Et sur France Musique, c'est l'heure de retrouver maintenant Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.